Bonjour Philippe.
Bon matin, ça va bien?
Bonjour,
ça va très
Philippe.
Bien, bon midi avec nous. Puis ben aujourd'hui, on va revenir sur ce point de presse hier, sur le rapport de cette enquête interne du CIUSSS
avec la phrase qu'on a entendue, je pense, le plus depuis hier, c'est tout le système qui a fait défaut.
Exactement, tout le système qui a fait défaut, mais encore, dirais-je, parce que on s'attendait à ce qu'on puisse, sans pointer des coupables nécessairement, qu'on puisse identifier des raisons spécifiques qui ont causé la situation. Je veux dire, on a 14 recommandations, c'est le fun, mais en gros, dans combien de temps que ça va être implanté, ces recommandations-là, et est-ce que ça sera vraiment efficace? J'aurais aimé avoir une conférence de presse hier qui, au lieu de dire « c'est tout le système et en tant que directeur général, je m'engage à tout mettre en place », M. Tremblay, je pense qu'il y a une très, très grande crédibilité dans la région, à la tête du CIUSSS. Je pense que ça fait plusieurs années qu'il est là. J'ai aucun doute qu'il va faire tous les efforts nécessaires. Mais encore, on a une situation qui vient nous chercher dans notre fort intérieur, qui nous frustre au plus haut point. On a une conférence de presse comme celle-là. Je trouve que c'est trop peu, à mon avis. Ça ne vient pas soulager cette espèce de frustration-là que les gens éprouvent quand on pense au sort tragique de cette jeune fille de 7 ans qui est décédée malheureusement à Granby.
Pour les blâmes, ce qu'on disait, Philippe, effectivement, hier, c'est qu'on attend aussi l'enquête policière. Hein, parce que faut le préciser, il y a d'autres enquêtes qui vont venir. Mais comme journaliste, on a posé les questions. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de tout ça? Puis on est resté vraiment, c'est le système qui a failli. Mauvaise communication aussi, peut-être au niveau des informations entre les différents intervenants au fil des ans. On est resté plutôt dans le général, effectivement.
Exactement. Mm. Alors, maintenant, va vraiment falloir... Je comprends qu'on attend après les autres enquêtes, mais par rapport au fonctionnement de la DPJ, par rapport à la relation que la DPJ a avec le CIUSSS, parce que, bon, l'un dépend de l'autre, là... Je me serais attendu à ce qu'on puisse identifier clairement, OK, on a eu un problème au niveau, par exemple, de la communication. Les acteurs de l'un ont mal communiqué avec les acteurs de l'autre, les policiers n'étaient pas au courant toujours au bon moment. Je me serais attendu à avoir des causes qui étaient beaucoup plus probantes que ça, et je suis âprement resté sur ma faim. Mm-hmm. Est-ce que c'est les conventions syndicales qui est le problème? C'est-tu là qu'on a un problème? Ou est-ce que c'est la non-intervention policière, le manque de personnel?
Il y a un manque de personnel, ça a été plusieurs fois évoqué, encore tantôt par le représentant syndical de la PTS. D'ailleurs, on compte un peu sur l'annonce du ministre Carman dans les prochaines minutes pour mettre un pas en avant. C'est sûr que le personnel, c'est le nerf de la guerre. Pour ce qui est de la DPJ, on s'en est même pas caché hier, là.
Exactement. Puis, ben honnêtement, je me doutais de cette réponse-là. J'ai pas eu la chance d'entendre l'entrevue tout à l'heure, mais je me doutais que ça serait bien sûr nommé. Mm-hmm. Alors, quelles sont les conditions d'embauche pour combler ce manque de personnel-là? On sait qu'on a besoin de personnel qui est spécialisé, mais on a aussi besoin de l'exécution de tâches qui sont relativement mondaines et être supervisé peut-être à distance par quelqu'un d'autre. S'il faut aller sur les lieux, envoyer quelqu'un sur les lieux, juste pour observer, qui ne va que prendre des notes, est-ce qu'il y aurait une façon d'arranger un système où on embauche des gens qui ont peut-être moins de diplômes, mais qui sont en mesure de au moins avoir une paire de yeux, puis d'observer qu'est-ce qui se passe, puis de le rapporter? Moi, personnellement, je me pose la question. Je n'ai pas la réponse.
Parce que c'est quand même ambitieux, là, ce qu'on semble vouloir faire, c'est-à-dire de rendre la profession peut-être plus attirante, justement, en diminuant les tâches, puis en s'assurant, justement, que ceux et celles qui travaillent dans le domaine en aient moins sur les épaules, parce qu'ils disent aussi qu'ils sont débordés, puis qu'ils n'ont pas le temps de s'occuper de tout. Mais en même temps, si tu diminues les tâches, ben ça te prend plus de monde, mais tu peux avoir un budget, mais s'il n'y a personne qui est disponible, parce qu'en ce moment, je pense pas qu'il y a beaucoup de travailleurs sociaux qui sont au chômage ou qui attendent un appel là, présentement. C'est parce qu'il n'y en a pas assez.
Tout à fait. Et d'où mon interrogation. Est-ce que le fait de vouloir absolument recruter des travailleurs sociaux pour ces tâches-là, est-ce que c'est la bonne approche ou est-ce qu'on pourrait diviser des tâches qui sont plus mondaines et les donner à des gens qui ne sont pas nécessairement des travailleurs sociaux, mais qui ont une bonne tête sur les épaules, puis qu'on enverrait là-bas pour faire le travail? En période de pénurie de main-d'œuvre, tous les emplois vont se retrouver dans la même situation. Oui. Et tous les emplois vont se retrouver qu'à vouloir être plus attirants, retirer des tâches, rendre le tout plus le fun. Ultimement, là, on manque de travailleurs partout, mais on a un peu de main-d'œuvre, bien sûr, qui serait disponible là, à aspirer à des emplois qui seraient mieux rémunérés que, par exemple, une job de plongeur dans un restaurant.
Encore faut-il que cette main-d'œuvre-là soit en mesure de bien cerner, de bien comprendre les problématiques. Oui, parce que
tout
oui, travailleurs sociaux, mais ce sont quand même des enfants en situation de négligence. Donc, ça prend des notions pointues. Il faudra voir.
Puis à ce niveau-là, je vous rejoins entièrement. Je veux pas que ça soit, par exemple, monsieur engagé sur le coin de la rue qui s'en va intervenir. C'est pas ça que je dis. Mais si on a besoin d'avoir une présence accrue, je me pose la question si on met la barre trop haute sur la formation de notre personnel dans certaines tâches spécifiquement, non pas en intervention, loin de là, mais pour les tâches plus mondaines. C'est mon interrogation en ce moment. Donc, souhaitons qu'on soit capable de trouver la meilleure des solutions, mais qu'on arrive à quelque chose qu'on puisse se mettre sous la dent rapidement, parce que vraiment, là, la frustration est immense autour de ce dossier-là.
Mm-hmm. Philippe, tu voulais également nous parler des chiens dangereux. Ça a été un sujet qui était pas mal à la mode dernièrement.
Oui.
Ben oui, mais c'est à la mode. Ça revient tout le temps dans l'actualité. Puis on dirait que depuis le début de l'été, ben, chaque semaine, il y a une situation ou une autre. C'est pas toujours chez nous spécifiquement, mais là, c'est dans la dernière semaine, on a eu les Huskies à Sherbrooke, on a eu le Pitbull à Louisville avec cette pauvre victime d'un an et demi qui s'est fait arracher la moitié du visage. Mon Dieu Seigneur! Je veux dire, on a un règlement qui a été publié le 15 mai dernier, donc qui est en vigueur en ce moment. Et puis, ça fonctionne toujours pas, là. Moi, personnellement, je suis pas très partisan de réglementer. Des fois, ça prend juste une autre forme de responsabilisation. Je me pose la question si, sur certains propriétaires de gros chiens qui pourraient avoir un comportement dangereux, est-ce qu'on devrait faire passer la responsabilisation davantage sur le maître?
Pour rendre les cours obligatoires de dressage.
C'est une excellente idée.
Tu sais, il y a ça aussi, mais quelle race de chien on cible? Il y a toujours ça. Les propriétaires, certains disent « Ah, oh, moi, j'en ai pas besoin, je m'en occupe comme il faut, même si j'ai un pitbull. »
Mais ça, tu le fais ou tu le fais pas. Tu peux pas le faire à moitié pour certaines races. Là, ça marche
c'est
pas
ça.
Pour ça.
Non, c'est ça.
Est-ce que ça passe par là?
Un gros chien, c'est un gros chien. Là. Moi, j'aurais tendance à dire, indépendamment s'il s'appelle husky ou pas, là, ou s'appelle pitbull ou pas, moi, j'aurais tendance à dire, il pèse un certain poids, il est musclé, il est pesant, ben regarde, gros bon sens. Là ça prend un cours de dressage, ça prend des mesures sur le terrain, si vous voulez posséder ce genre de chien-là, puis on va de l'avant. Si on décide d'aller du côté réglementation, mais si on décide de pas nécessairement aller du côté réglementation, ben à ce moment-là, on se casse pas trop la tête, puis on dit, ben s'il arrive quelque chose, ben c'est comme si c'est le propriétaire qui l'avait fait. Mais là, on va se retrouver dans d'autres situations où ce que juridiquement, je ne suis même pas certain qu'on est capable de
porter
faire porter ce blâme-là
non,
à un individu. Donc, on aurait tout un drôle de travail à faire au niveau juridique aussi. Là.
C'est bien certain que les propriétaires ont leur part de responsabilité. On s'entend quand on entend des histoires comme ça. On se demande toujours, mais où était le propriétaire du chien? Faut qu'il intervienne rapidement, là.
Oui.
On s'entend.
Alors, nécessairement, ça passe par la capacité du propriétaire à bien élever son chien, bien l'éduquer, à bien l'encadrer. On ne peut jamais empêcher un chien d'être un chien. Alors, quelles mesures ce propriétaire-là aura-t-il mis autour de son terrain pour s'assurer, hors de tout doute, que ce chien-là ne s'échappera pas pour aller croquer la jambe de quelqu'un dans la rue? Donc, moi, à ce niveau-là, là, deux huskies qui s'échappent, puis je me pose la question, hein, qu'est-ce qu'il y avait là, comme sécurité? Là? Moi, je suis capable de garder mes chats chez nous. Je suis certain qu'ils sont capables de garder leurs chiens dans leur
entrée. Oui, c'est ce qu'on aimerait.
Merci beaucoup, Philippe. On va se retrouver
merci
demain.
Philippe.
Merci,
bonne fin de journée.